Tribune PSG sur France Bleu. Bruno Salomon.
Thiago Motta pour Pastore. Pastore en une touche de balle pour Di Maria. Di Maria pour Pastore. Pastore qui porte le ballon en profondeur pour Cavani. Ça va faire but. Et but. Goal pour le Paris Saint-Germain. Le mouvement est tout simplement somptueux.
Ah, oui,
et là, il arrive face à Gürtner. Il l'excentre un tout petit peu et sous le ventre. Terminé. Ça va faire but, comme je vous l'ai dit. Et là, ça se sent. Konaté, une nouvelle fois, côté droit qui rentre dans la surface, qui va frapper. But. Frappe croisée. Voilà, vous l'avez très bien dit, Eric. Le PSG à la tête dans le vestiaire. Et les Amiénois à fond. Frappe croisée qui va petit filet gauche. Frappe pied droit, il est
beau
à
but, hein.
Ouais. 7 mètres. C'est le meilleur joueur de cette équipe.
Ouais, ça va tout à l'heure, ça va.
Meunier qui est parti à droite, ça va centrer. Ça revient sur Thiago Motta qui contrôle le ballon. Thiago pour Christopher Nkunku qui va enrouler. Goal ! Christopher Nkunku, un but tous les deux matchs. C'est ça la patte Christopher Nkunku. Il enroule et il l'avait petit filet droit. C'est pas plein de Lulu, mais bien joué de la part de Christopher Nkunku sur une petite passe merveilleuse de Thiago Motta. Attention là quand même avec Konaté qui va frapper et le but. C'est pas vrai sur la contre-attaque. L'erreur de main d'Alphonse Areola. Équipe MB une nouvelle fois qui est dedans. Qui est dans l'affaire.
Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue au sommaire ce soir de Tribune PSG. Un coach qui se lâche, des ultras qui se fâchent, une équipe qui pense à la Coupe du Monde, mais pas forcément à la Coupe de France. Enfin, oui, mais elle vient quand même, cette Coupe de France, avec une affiche bien étrange. Les Herbiers, Paris Saint-Germain, c'est demain à 21h à vivre sur France Bleu 107.1, sur France Bleu Paris, bien sûr. Le tout mitonné, hein, cette Tribune PSG, avec vos messages, bien sûr. Saupoudré, on va avec un petit quick quiz, hein, bien sûr, pour terminer l'émission. Et l'accueil d'un invité. Bonsoir, Grégory Proch.
Bonsoir.
Bienvenue dans cette émission. Merci. Grégory, auteur d'un livre qui va sortir. Et nous, on est comme ça dans Tribune PSG. D'habitude, on invite les auteurs qui ont sorti le livre. Et bien, nous, ça va bientôt sortir. C'est un livre qui va sortir le 31 mai. Mais quand on lit rien que le titre, je suis né la même année que le PSG. Regardez le sourire déjà tout de suite de
je
Stéphane.
Suis né la même année que le
PSG. Non, oui, je t'avais noté comme
non,
ça.
Il n'y a pas l'article.
Ah, il n'y a pas l'article. D'accord, très bien. Voilà, je suis bien.
Paris n'est pas un nom commun, il ne peut pas avoir un article.
Très bien, bon ben voilà, comme ça, en tout cas, bienvenue Grégory. Merci. Aux éditions JC Lattès, hein, pour le livre. On en reparlera dans quelques instants. Je vous présente l'équipe qui est avec nous. Tonton Steph, Stéphane Bitton, il est beau. Il a pris le soleil de Marrakech.
Ouais, c'était sympa.
Ah, c'était sympa.
Il n'a pas fait que beau.
C'est vrai?
Ouais, contrairement à ce qu'on pourrait croire.
Vous êtes en train de vous plaindre de vos vacances?
Non, deux jours. C'était pas des vacances, c'était un séminaire important. Mais voilà, écoutez, en tous les cas, ça s'est fait vendredi et samedi sous le soleil. Le reste du temps, il faisait frais.
Tonton Steph, qui va en séminaire à Marrakech.
Renan, c'est pas comme ça au Parisien. Ça éveille la curiosité.
Ouais, c'est ça.
C'est vrai, on se demande de quel séminaire s'agit-il.
C'est pas comme ça au Parisien. Au Parisien, on vous envoie en séminaire?
Ah non, on nous envoie parfois en week-end. Ça peut arriver une fois de temps en temps.
D'accord.
Et là, c'était le cas.
D'accord.
Je te l'avoue.
C'est vrai ou ça?
En Bourgogne, je préfère ne pas trop m'apesantir sur les détails.
Ronan Folgoas est avec nous. Il est le représentant de la team Le Parisien, notre partenaire. Ça va?
Oui, très bien. Ouais. Je vous remercie, Bruno.
Prêt à parler de l'actualité du Paris Saint-Germain?
Évidemment.
Et on salue les deux absents aujourd'hui. Parce que en ce moment, tout le monde se relâche. Entre le paperboard qui part en vacances.
Vous m'avez salué la semaine dernière, j'espère.
Oui.
Bien sûr.
Oui.
Bah oui. Bah,
voilà. Émilie qui n'est pas là. Émilie Ross n'est pas là.
J'ai nettoyé ma ligne.
C'est ça. Émilie Ross n'est pas là. Et François Donat non plus. Donc pour les messages. Et pour les messages, ce sera avec moi aujourd'hui dans cette émission à la réalisation. Dauphard qui est avec nous et bien sûr donc sur les réseaux sociaux. On va voir ça dans quelques instants. Et puis tiens, juste pour vous annoncer, et c'est un super moment, ça va être la fin de saison de Tribune PSG. Et pour partager un maximum cette émission, je veux vous partager un maximum cette émission, car c'est à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 21 mai que vous allez pouvoir remporter vos places pour embarquer avec nous, car le 28 mai, Eh bien, nous allons proposer une croisière, la croisière Tribune PSG. Oui, on est comme ça pour célébrer la fin de saison. Parce que certains se gaussent de faire des finales d'Europa League. Nous, il y a au moins le championnat gagné. Il y a au moins la Coupe de France, peut-être à venir, la Coupe de la Ligue, le trophée des champions. On va fêter ça sur les vedettes de Paris, avec le Parisien, avec les vedettes de Paris. Peut-être avec Ronan Folgoas,
qui paiera son coup à boire. Et petite anecdote quand même, c'est vrai que vous faites bien les choses chez France Bleu, puisque ça tombera là, donc un 28 mai. Le 28 mai, c'est là. Ah ah, c'est la Saint-Germain, bien sûr.
Bravo. Ah oui, on l'a pas fait exprès. Mais alors là, ah, pas fait. Ouais, voilà. Alors là, tu vois. C'est bien que tu nous le dises.
Je voulais vous le dire.
Non, mais c'est bien, comme ça moi c'est assez posé. Mais et le 28 mai c'est aussi match France-Irlande. Comme ça on pourra continuer la soirée à se regarder un petit match amical avant la Coupe du Monde. Et donc, si vous partagez cette émission, on va voyager et se balader sur la Seine et faire l'émission en Facebook Live. Et on va voir passer la Tour Eiffel, l'île Saint-Louis. Joli petit parcours de voilà. Mais pour gagner les places, eh bien vous partagez l'émission et on fera un tirage au sort. Aujourd'hui, on vous fait gagner 2 places pour une personne. Il y en aura d'autres à gagner sur l'antenne, tout sur l'antenne, sur France Bleu Paris, mais aussi dans cette émission. À noter que normalement, la semaine prochaine, on a un joueur qui débarque dans ce studio, ce qui sera une grande première aussi. Et il se passe des choses sur cette fin de saison. Il aura fallu se battre toute une saison pour que ça se passe.
Eh ben, du moment que ça arrive, c'est ça le principal.
C'est ça. Grégory Proch, donc, qui est avec nous, je me retourne une nouvelle fois vers vous. Tombé dans le Paris Saint-Germain, quand, Grégory?
Techniquement, en 1978, quand Dominique Battenet signe à Paris, puisque c'est mon joueur préféré.
Ouais, c'est ce que vous expliquez dans votre livre.
Et définitivement et maladivement, quand Safet Susic signe à Paris.
Alors, je vous présente le président du fan club de Safet Susic, et je pense qu'il y a le vice-président, ou vice-versa. Vous êtes tous les deux grands fans.
Je m'incline devant tous les supporters qui l'ont été avant moi.
C'est le privilège de l'âge, mais c'est tout. Mais je pense qu'on a aimé, on aime le Paris Saint-Germain. Pareil.
J'ai peur que nous n'aimions beaucoup les numéros 10, effectivement.
C'est ça. Quand on lit, quand on ouvre le livre, on a le droit à Safet Susic, à Mustapha Dalleb, à Ronaldinho, enfin, il y a toute une liste
Ravière
comme
Pastore,
ça. Et Javier Pastore, c'est le numéro 27. Il est là, quelque part. C'est son vrai numéro.
Oui, Javier Pastore, il a un avantage incroyable. Il arrive à nous donner à croire qu'il était là avant. Aujourd'hui, il est une espèce de trace du PSG d'avant les Qataris, alors même qu'il est arrivé avec les Qataris.
C'est pas faux.
Mais il a cette espèce de dimension esthétique, dilettante.
C'est un créateur, et les créateurs sont devenus très rares.
Tous les défauts qu'on peut lui accoler sont pour moi des qualités absolues. Il est parfait comme il est.
Voilà, en tout cas, Grégory Proch est avec nous, on parlera de votre livre. Pendant l'émission, bien sûr, on va suivre l'actualité. On va tourner tout de suite. Hop là! On a juste mis un score de 2 parce que finalement, c'est le tarif maison. Oui, en ce moment, on va quand même reparler quelques instants. Oui, il y a la Coupe de France demain. Oui, Neymar est revenu. Oui, Unai Emery se lâche. Oui, les ultras se fâchent. Mais il y a eu ce match à Amiens, Steph.
Oui.
Ils ont tous la tête à la Coupe du Monde. Marquinhos l'a dit. Il l'a avoué. Au moins, il est tranquille.
Bien sûr,
il l'a tout de suite
dit. En fait, c'est ça. Je crois que les records, puisque Paris court plus qu'après ça, le titre, il est acquis. Les records, c'est pour les journalistes et les supporters. Et eux, apparemment, ils pensent avoir laissé une trace dans l'histoire du club. Ils ont raison, parce qu'avec le nombre de titres remportés, personne n'a jamais fait aussi bien ni mieux. Je pense qu'il va falloir s'asseoir sur quelques-uns des records qui étaient encore possibles. Paris peut-il avoir ses 30 victoires dans la saison? J'en suis plus tout à fait sûr.
Ah bah non.
J'ai très peur de Rennes. Je pense que Rennes va gagner au Parc des Princes, malheureusement.
C'est déjà arrivé il y a quelques années.
Mais l'occasion du sacre.
Je le sens pas bien du tout. Je trouve que Sabri Labouchi fait un travail excellent du côté de Rennes et je pense qu'il est capable, face à des Parisiens qui auront normalement gagné la Coupe de France le mardi soir et qui seront en mode relâche et qui courront plus après grand chose là pour le coup.
Rennes effectivement devra consolider sa cinquième place pour la Ligue Europa.
Pour moi, c'est le match.
Et Olivier Létang, président du Stade Rennais depuis l'automne dernier, va les remonter comme dit coucou.
Exactement.
Et donc il se fera un plaisir sûrement d'aller gagner au Parc.
Grégory, en tant que quand on est supporter comme ça, que le Paris Saint-Germain est champion depuis déjà 2-3 semaines, on de les voir comme ça sur courant alternatif, face à Amiens, pas capable de plier un match. Il y a eu des moments où il y a eu des phases assez intéressantes où finalement ils ont dominé les Amiénois, mais sans vraiment plier le truc. Grégory, puis après je viens de voir Stéphane.
C'est coutumier. Ça ressemble au PSG de toujours. C'est même rassurant d'une certaine façon. Même quand ils sont les plus puissants, premiers du championnat, longtemps à l'avance, ils peuvent encore nous décevoir ou nous surprendre désagréablement. Ce qui est quand même... Il faut y arriver après tous les titres qui ont été enchaînés, réussir à laisser sur leur faim les supporters.
C'est vrai qu'on a l'impression d'être sur. Il a raison.
Il a raison. Mais tu dis pas capable. Mais capable, ils le sont. Pas envie. Pas envie. Parce qu'on sait que Paris, quand Paris a envie en France, Paris bat n'importe qui. Donc quand Paris fait 2-2, pareil face à Guingamp, eh ben c'est que Paris n'a pas envie. Paris n'a pas envie.
Ce sont des petits efforts individuels que l'on ne fait plus ou qu'on fait moins intensément. Et puis quand il y a 9 joueurs sur 11, par exemple, qui sont dans cet état d'esprit, et qu'il reste peut-être un ou deux joueurs motivés, mais pour jouer aussi leurs cartes, je pense à Christopher Nkunku, qui est la bonne surprise de la saison, mais j'ai l'impression pour lui, les saisons se suivent et se ressemblent un peu, peut-être qu'on en reparlera plus tard.
On peut en parler de Christopher Nkunku, mais
c'est vrai que lui profite des fins de saison pour réapparaître après quelques mois quasiment à la cave où il était très très peu visible. Il ressurgit comme ça au printemps, c'est arrivé l'année dernière, ça se reproduit. Puis lui, il joue sa carte à fond, puis il enchaîne les buts, il enchaîne les belles prestations.
Et Ronan, vous avouez qu'il y a de la concurrence, hein.
Ah bien sûr. Voilà. Mais ça donne une idée de son potentiel aussi, et ça donne une idée de ce qu'il pourrait faire peut-être sous d'autres cieux, sous forme de prêt, hein, la saison prochaine, par exemple.
Guillaume nous dit sur Internet, je pense qu'on est trop habitué aux meilleurs, je préfère 2-2 à Amiens et être champion plutôt que de lutter pour le maintien, comme en 2008. Ça, c'est pour rappeler les anciens. Il y a Cavani qui nous dit ils ont peur de la blessure. Ils ne pensent qu'à cette Coupe du Monde. Et ça devient un petit peu saoulant.
Je ne suis pas sûr. Je pense que face aux Herbiers, par exemple, je ne veux pas anticiper ce match qui est donné d'avance, mais je pense qu'ils vont être sérieux. Ils vont faire le nécessaire pour l'emporter. Parce qu'il y a un trophée au bout, parce que peu importe que ce soit en phase 2, Monaco, Lyon ou les Herbiers, ils vont jouer pour gagner. Et là, ils vont le faire. Et là, je pense qu'ils ne penseront pas demain soir à la blessure. Ça m'étonnerait. Ou en tous les cas, pas spécialement. Mais, je pense qu'à Amiens, il n'y avait pas cette crainte-là non plus. Il y avait simplement un manque d'envie.
Non, je pense que Marquinhos, il dit sa vérité, en tout cas. Je crois vraiment que oui, il n'y avait pas d'envie, mais il y avait surtout l'envie de ne pas se blesser. Ça, c'est humain sur un match sans enjeu, sans aucun enjeu sportif. C'est très humain, c'est très normal. Voilà, ça ne me choque pas.
Il y a une vraie belle question de Laurent là sur les réseaux sociaux. Je vous rappelle, n'hésitez pas à partager cette émission. Pourquoi les jeunes ne jouent pas? C'est vrai qu'on pourrait voir plus Timo Ea. On pourrait peut-être même...
Et c'est peut-être le problème d'un entraîneur partant qui a aucun intérêt à l'expérimentation, que ça sert à rien à Emery aujourd'hui de lancer des petits jeunes, ce que nous attendons pourtant tous. Parce qu'il semble évident que si on avait 5 ou 6 joueurs du cru pour former l'ossature de cette équipe, on n'aurait peut-être pas les mêmes déceptions à certains moments.
Parce qu'en plus, on aime ça, découvrir le jeune talent, le voir sur 90 minutes face à Amiens. Et ça, on aurait pu le rendre à Emery. On va en parler d'Unai Emery qui se lâche et qui fait son bilan. Dans son bilan, il aurait pu dire, regardez, j'ai lancé Timo Ea, puis j'ai commencé à le construire.
Peut-être qu'il essaye de maintenir sous pression quasiment son 11 habituel jusqu'à la finale de la Coupe de France, jusqu'aux Herbiers, et que sur les deux dernières rencontres, il va enfin peut-être donner encore plus de temps aux genoux. Alors après, je pense que le petit Wea, il est vraiment très jeune et il a encore le temps. Nkunku, maintenant il est régulièrement dans l'équipe et c'est bien. Et puis les autres, pour l'instant, n'ont pas de quoi inquiéter ceux qui sont titulaires.
17h50 dans la tribune PSG. Je vous rappelle que l'invité aujourd'hui est Grégory Proch. Le nom, cette fois-ci, je ne vais pas me tromper. Je suis né la même année que PSG aux éditions JC Lattès. Ça sort
le 30 mai.
Le 30 mai, nous on invite l'auteur. Avant.
Mais rassurez-vous, l'éditeur aussi se trompe et met le PSG.
Voilà, c'est ça. Donc, je voulais faire quand même. Juste pour parler quelques instants de ce livre avec vous, Grégory. Donc, vous êtes né le 13 septembre 1970.
C'est
voilà,
ça.
Ça se joue à quelques jours, finalement, à touche-touche. On aurait même pu dire le même jour que le PSG.
Quasiment, le 24 août, je crois, le premier match.
C'est
donc,
ça.
Vous voyez, deux semaines.
On en était pas loin. Et en fait, c'est un roman, une espèce de conversation. En fait, on suit votre vie personnel avec les affres du Paris Saint-Germain. C'est et ça. On voit cette vie qui est... Et je suis sûr que tonton Steph aurait pu... Voilà, il a eu l'idée, en fait, Greg.
Ouais, et c'est exactement, ça fait longtemps que je pense à quelque chose comme ça. Mais bon, bah, maintenant, l'idée est prise. Je fais autre chose. Mais j'y pense.
Comment ça vous est venu de l'idée de faire ce parallèle, en fait, à ce moment-là?
En fait, c'est venu assez récemment parce que j'ai, depuis 2008, un beau-fils que j'ai malheureusement pour lui précipité dans le foot, évidemment, et au parc, par-dessus tout. Et que quand je le taquinais, quand il avait 10-11 ans, une de mes grandes facéties désagréables, c'était de lui dire pour finir, mais je sais pas pourquoi t'essayes de discuter avec moi, je suis né la même année que PSG. Ce club coule en moi, tu peux pas avoir raison contre moi. Ça l'énervait au plus haut point, et je me suis dit, si je pouvais déclencher ça dans un livre, presque le même énervement amusé, c'est pas mal, parce que c'est une légitimité qui se discute. On est un certain nombre à être nés la même année que nous. Ça donne pas de qualité particulière, mais dans une petite joute verbale idiote, ça marche. Et donc, l'idée aussi, c'était de... Il y a un changement réel. C'est pas seulement l'arrivée de l'argent avec les Qataris. Il y a une mutation plus profonde. On sort de l'esthétique. PSG, pour moi, est un club qui a toujours été dans l'esthétique, bizarrement. Beau, pas beau, etc., mais d'une efficacité discutable et rarement dans la continuité. Or là, pour la première fois, si on met de côté la saison précédente où Monaco a fait des exploits, là on enchaîne les titres. Alors pour un supporter parisien historique, c'est très perturbant. C'est-à-dire avoir un PSG... Mais parce que quand j'étais gamin, PSG était honni parce que le club supposait le plus riche, alors que c'était pas forcément vrai. En retravaillant, j'ai découvert que régulièrement, dans les années 80, on était le quatrième ou cinquième budget seulement. Mais pour toute la France, j'allais dire toute la province, c'est un peu...
Les régions, maintenant, faut les régions, régions,
parlons des régions.
Pour pas vexer les bouseux.
Mais
je rigole, mais ça,
évidemment. Oh là là, j'ai des problèmes, moi, encore.
Il était entendu que PSG était le club le plus riche, le plus puissant, ce qui nous valait pas mal d'animosité, et ce qui déclenchait chez nous, en retour, énormément de moqueries. Mais vous avez dit bouseux, nous on disait pecno, fébourg, pécor.
La chanson du parc, paysan.
Je me suis posé la question, justement, si demain soir, les supporters du PSG allaient chanter ça.
Je crois que ça serait très mal vu au désert. Non mais c'est voilà, vu le contexte, on en reparlera tout à l'heure de la Coupe de France, mais vu le contexte où de toute façon tout le monde veut, voilà, le PSG est prêt à tomber dans un piège. Si tu leur mets pas 3-0 minimum, tu vas passer pour rien du tout. Ah si tu leur mets 15-0, tu vas passer pour un méchant. Enfin, t'es pris en tenaille sur cette finale. Mais on en reparlera tout à l'heure. Il y a une vraie histoire de passation, en fait. Vous, une espèce de passage de témoin. C'est-à-dire avec ce jeune, justement. Voilà, je te donne les clés pour que tu comprennes ton club et pour que tu avances avec l'histoire de ce club qui est en train de grossir et qui devient une espèce d'énorme anomalie dans le monde du foot.
C'est ça. En fait, il a devant lui, pour lui, le PSG dont nous rêvions quand on était gamin. C'est-à-dire vraiment le plus riche, le plus fort, le plus puissant, le plus tout ce qu'on veut. Il l'a. Et donc, là où nous, on n'était pas trop exigeants, parce qu'on avait quand même la réalité devant les yeux, et que pour un titre en 85-86, il y a une saison 84-85, par exemple, une des pires de tous les temps. Aujourd'hui, ça n'arrive plus. C'est-à-dire que même une saison décevante, on est deuxième, mais on gagne quand même trois ou quatre titres, si je puis dire.
Ça a bien changé, effectivement.
Et aussi le fait que c'est même plus général que ça. Quand j'étais gamin, personne n'avait de maillot de foot. De maillot d'équipe de foot, on avait celui de l'équipe pour laquelle on jouait, et puis c'est tout. Aujourd'hui, tous les gamins ont des maillots de foot, j'allais dire tous les pauvres, entre guillemets, portent des maillots de foot, vrais ou faux. Et parmi ceux-là, la banlieue qui était marseillaise dans les années 90, je le déplore encore aujourd'hui, la banlieue aujourd'hui est PSG. Le rap est PSG partout. PSG s'est imposé.
Je dirais que Marrakech est PSG.
C'est vrai aussi.
Ouais, oui. Non, c'est vrai. J'en ai vu partout. Mais oui, des maillots.
Alors que Marrakech est très. Ouais, mais
à Dakar, il y a des supporters de PSG.
On voit des maillots du PSG partout.
C'est en train de... La marque est en train de se développer.
Et ça change tout parce que nous avions une espèce de position de conflit ouvert avec le reste du monde. Alors ça tombe bien quand on est adolescent, comme on est en guerre. PSG fait un parfait vaisseau. Aujourd'hui, c'est complètement différent. C'est un PSG qui doit assumer son rang, qui doit des trophées
C'est une équipe aussi qui a un pouvoir de séduction énorme, même à l'extérieur. C'est-à-dire, voilà, on vient voir le PSG, on se déplace, qu'on habite Rennes, Caen ou Nice, ou voilà, ou bah on vient voir les gars du PSG.
Rémi Giroud, hein, histoire du PSG, il vient à Narbonne et quand il vient voir ses matchs, il monte de Narbonne pour voir ses rencontres. Mais il est supporter depuis des années.
Ah, voilà. Non, mais là, je parle de supporters qui ne sont pas sympathisants du PSG, mais qui viennent voir parce que l'équipe, bien sûr, parce qu'il y a un pouvoir de séduction.
On fait la petite pause, on a discuté avec Grégory, on passe à la suite parce que actuellement, eh bien, il y a un entraîneur qui est en train de faire le bilan comptable, ou en tout cas qui est en train, notre Unai, de se lâcher un petit peu. Lui qui, en ce moment, est en train de se tendre dans ses conférences de presse. Record absolu, les amis, il faut le savoir. Conférence de presse d'après-match à Amiens, 50 secondes, montre en main. Il a répondu à 3 questions et il s'en est allé.
Mais peut-être qu'il n'y avait pas de 4e question.
Et bah, non, en fait, la 3e question a été posée sur Marquinhos vient de dire qu'ils avaient la tête à la Coupe du Monde.
Ah oui.
Réponse, c'est un avis personnel, et il s'est levé et il est parti.
Oui. Bah oui.
Là, il est tendu.
Dès qu'il y a la moindre question sensible, et encore, c'était pas vraiment une question sensible, mais c'est vrai que là, il est clairement passé à autre chose. Là, hein.
Il est en train. Alors, c'est marrant parce qu'il y a une vraie différence avec Antoine Comboiré, avec Carlo Ancelotti, avec Laurent Blanc, qui faisait le bilan après. Même s'il savait que c'était terminé, je vous verrai après, je discuterai après. Là, on a Unai Emery qui a posé 2 entretiens. Un dans Tactical Room, hein, qui est un média espagnol très porté sur la tactique, donc, et Transversal sur SFR Sport hier. Et il a parlé de tout, de Silva, la remontada. Effectivement, que l'entraîneur se lâche maintenant.
Ouais, alors moi je l'ai lu. Alors moi je pense
c'est
que
c'est intéressant. Ce
oui
dit.
Oui, c'est très intéressant.
Alors, c'est un peu facile sur certains.
Voilà, exactement. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Moi je le sens quand même un peu amer, le garçon. C'est-à-dire que il est arrivé, il avait ses 3 Ligue Europa. On allait voir ce qu'on allait voir, il l'a dit d'ailleurs.
Il s'est fait fracasser
Nasser
par l'UDKTF d'entrée quand même.
Hein. Lui a dit t'as gagné toi, on va s'élever avec toi en gros. Et il a le sale sentiment quand même que finalement le Paris Saint-Germain s'est pas tant élevé que ça au cours des 2 années qu'il a passé avec Paris. Donc lui est quasiment persuadé que ses méthodes étaient les bonnes et qu'il n'a pas été suivi par le vestiaire qui a eu déjà une acclimatation difficile et que cette année est une année quelque part ratée, pas au nombre de titres, évidemment, il a récupéré le titre de champion de France, mais qu'il n'a pas pu profiter au maximum de Neymar, qui devait être celui qui devait lui faire franchir un palier. Il a été blessé pour le match retour. Il y a eu des choses qui se sont passées. Et je pense qu'il est un peu amer.
Juste petit message de Globule, hein, sur les réseaux sociaux. Emery est le roi de la contradiction. Il parle beaucoup, mais si j'étais en face de lui, je lui demanderais après chaque réponse, mais alors pourquoi n'avez-vous pas réagi ou changer
par exemple,
ce qui s'est passé.
Un exemple précis, quand il parle d'Adrien Rabiot, et il dit, alors c'était chez nos amis de SFR Sport hier, semble-t-il, il dit, voilà, je pense que le meilleur poste d'Adrien Rabiot, c'est ce poste de sentinelle, hein, qu'Adrien Rechigne a joué. Et pour autant, il ne l'a pas fait jouer dans les matchs qui comptaient. C'est-à-dire face au Real Madrid à l'extérieur, hein, match aller, c'est le Chelsea, c'est pas Rabiot. Donc c'est vrai c'est bourré de contradictions en fait. C'est un bilan qui mériterait quand même peut-être un peu de contradiction, c'est le cas de le dire, parce que là Unai Emery, il défend son bilan et il est tout à fait dans son rôle, parce que lui il pense au coup d'après, évidemment. C'est-à-dire que quand il parle là, il parle aussi au monde du football. Il dit regardez, moi
c'est parce sûr que lui, on sent qu'il veut continuer. Là, c'est pas clair. Laurent Blanc. Il n'a pas son caddie de golf.
Il l'a dit clairement.
Il raconte son histoire d'ailleurs.
Grégory veut réagir. Oui,
mais cela dit, il avait fait jouer Rabiot à tort au match retour à Barcelone la saison
oui,
dernière.
Oui, mais là pour une autre raison. C'est que.
Ça fait double.
Parce que Rabiot était malade. Enfin bref. Mais là.
Moi,
là,
je trouve Rabiot beaucoup plus. Enfin, sur le match de Barcelone de la saison dernière, peut-être plus coupable qu'Emery. N'avoir pas dit à Emery qu'il n'était peut-être pas en mesure de jouer.
Tout le monde savait qu'il avait été alité, était malade. Alors, et pour moi,
joueurs
je peux refaire l'histoire.
Je sais, je comprends bien qu'on veut
quand
le jouer.
Quand il y a un match important, quand il y a une Coupe du Monde, là, ils sont tous prêts à tout sacrifier. dans l'ensemble. Et des fois, des joueurs arrivent avec des douleurs, ne le disent pas pour faire partie de la liste des 23 et adviennent que pourra.
Après, Bruno, si je puis me permettre, sur Neymar, c'est un bilan assez critique parce que, partant du principe que Emery ne dit pas non plus tout le fond de sa pensée, mais qu'il amène quand même les gens sur des pistes, ce qu'il dit sur Neymar, le fait qu'il ne se soit pas encore acclimaté à la France, à la Ligue.
Il n'est pas à 100% à Paris.
Voilà. Voilà.
En gros, il ne s'est pas installé à 100% à Paris.
D'un autre côté, ça fait je ne suis pas essayé, mais on l'avait un petit peu compris.
Oui, il était 0% ces deux derniers mois, mais c'est une charge qui, à l'échelle de ce qui se dit dans le monde du foot et ce qui se dit à l'égard d'un joueur comme Neymar, c'est quand même une charge assez violente. C'est une bonne pierre dans le jardin de Neymar.
Moi, je trouve aussi une chose assez violente dans Tactical Room, quand il annonce en disant « Guardiola », on parle de Pep Guardiola, est le chef à Manchester City, et quand il annonce « il faut que Neymar soit le chef au PSG ». Mais attendez, Guardiola est un entraîneur.
Il dit d'ailleurs, Florentino Pérez est le patron au Real et au Paris Saint-Germain, ça devrait être... En gros, il explique que le patron, c'est pas forcément un joueur, ça peut être un entraîneur, un président, ça dépend de l'environnement. Et lui pense que...
Il envoie une pierre dans la tête des dirigeants parisiens.
Et puis il savonne la planche du suivant. C'est-à-dire que, en gros, il dit à Tourelle, je te dis tout de suite, non, toi, tu vas t'écraser parce que le taulier, c'est même la pire chose qu'il pouvait faire. Moi, je trouve que ce garçon est extrêmement intelligent et manipulateur.
Il y a un petit côté tordu là, sur ce côté-là.
Et je pense que sa façon dont il nous a tous plus ou moins embrouillés tout au long de ces deux années avec son français, qu'on a pris d'abord pour une bonne attitude de celui qui veut, mais qui lui a permis aussi de se cacher derrière plein de choses et de nous faire balader avec des bouteilles de flotte en nous disant rien. Et ça n'a pas été facile pour les journalistes pendant 2 ans. Là, non, je pense qu'il est intelligent, manipulateur. Il raconte son histoire, c'était ça, sur ça que je voulais revenir. C'est qu'il n'a pas un grand passé de footballeur et que lui dit être entraîneur par passion. Et que sa vie, c'est le football. Et que quoi qu'il arrive, il va continuer. Il se prendra des gadins ou pas, mais il continuera. C'est sa vie, il aime ça.
Mais quand il dit « les joueurs n'ont pas adhéré à mon agressivité », là aussi...
Oui, non mais après... Oui et non, je sais pas. Vous voulez dire quoi, Bruno?
Je sais pas. Moi, je trouve que
le cas Rabiot l'illustre assez bien.
Grégory.
C'est-à-dire que Rabiot n'a pas tellement voulu jouer dans le rôle.
Il n'a pas écouté son coach.
Il y en a un qu'on pourrait.
Je suis persuadé que si Pep Guardiola dit à Rabiot, tu te mets en sentinelle, il y va tout de suite.
Évidemment.
C'est ça.
Encore faut-il qu'un entraîneur soit soutenu par le club. Parce que là, on parle du cas Rabiot, mais. Adrien Rabiot, lui, est toujours dans une phase très compliquée à l'égard du PSG, puisqu'il est en fin de contrat dans 1 an, qu'il demande à jouer à son poste de milieu relayeur. Et donc, pour ne pas froisser non plus le joueur, le club a dit, bon, mettons-le dans les meilleures dispositions. Ne lui donnons pas de raison d'aller voir ailleurs ou de demander à partir. Donc, il y a eu comme ça, c'est comme ça que je l'analyse en tout cas, hein, une forme d'indication forte, voire de pression sur Unai Emery de la part d'Antero Henrique, notamment, pour dire... Écoute, Unai, ok, on sait ce que tu penses, on est sûrement de ton même avis, mais mets-le quand même milieu relayeur. Hein, c'est quand même mieux pour tout le monde.
C'est bien, ça sent la sérénité dans ce club.
Voilà, non, mais cette dimension-là dans le cas de Rabiot. Lui, c'est un cas un peu particulier.
Mais combien de fois on s'est plaint ici du manque d'agressivité des joueurs du Paris Saint-Germain sur les matchs importants, manque d'agressivité à Marseille, à Lyon, contre le Real, contre le Barça. Ce coup-là, Il a raison. Et quand on dit Adrien Rabiot est probablement un gentil garçon pas assez agressif, on pourrait rajouter Marco Verratti, qui lui sort rarement, il prend des cartons rouges, mais il les prend pas toujours, il les prend parce qu'il parle trop, parce qu'il fait des gestes, pas tellement parce qu'il blesse les mecs ou les mecs d'en face. Ah non. On a reproché à Thiago Silva de pas être assez agressif.
Bien sûr.
D'ailleurs, Thiago Silva, on prend une petite tout derrière les oreilles aussi de la part
donc,
de...
Donc moi, je l'ai bien vu, effectivement. Alors sur l'agressivité, on peut le reconnaître. On a même dit que, on l'a dit ici, les joueurs du PSG sont trop bien élevés pour franchir certains caps.
Une des grandes découvertes sur les deux saisons, c'est Kimpembe, qui est un joueur très agressif, qui reçoit l'adhésion du public sans discussion. Ce qu'il a fait à Messi au match aller contre le Barça, c'était extraordinaire. Et c'est un joueur agressif. Il prend des cartons, mais par rapport à Thiago Silva, il dégage une autre impression sur le terrain. Et que peut-être il y a quelque chose à creuser par là. Mais je retombe sur l'histoire d'un certain nombre de joueurs franciliens dans l'équipe qui nous manquent certainement pour créer un,
j'aime cette idée-là.
Un état d'esprit.
Céline nous dit, sur tous les grands matchs, on a manqué de niaque. Thierry nous dit bonjour de la Réunion et on le salue. Il salue aussi le futur coach Tourelle. Voilà, en tout cas. Et après, qu'est-ce qu'il nous dit? Il y a Benoît qui nous dit, qui nous parle de d'Unai Emery. Il n'a pas fait de changement. Oui, il parle des 15 premières minutes. Oui, ça a choqué aussi pas mal de monde sur quand il dit, oui, contre le Real Madrid, je me suis retourné vers mon adjoint en sachant qu'après 15 minutes, on avait perdu. Alors ça, c'est quand même...
Mais ce monsieur, il dit beaucoup de choses que nous, on a vu aussi en tribune de presse. Moi, il m'a pas fallu des heures et des heures pour comprendre, après le coup d'envoi de PSG Real, que ça allait mal se passer ce soir-là.
Bien sûr, bien sûr.
Il n'y avait rien.
Bien sûr, mais c'est vrai que c'est cette liberté de parole. Et puis, bon, bah, quelque part, les masques tombent aussi un petit peu. Mmh. C'est-à-dire que là, l'exemple que vous donniez, Bruno, sur Thiago Silva... On le savait, ça a été dit, ça a été écrit, mais là au moins les principaux intéressés l'avouent. Voilà, les Thiago Silva, il en voulait plus à la fin de la saison dernière. Et
Il a gardé quand même.
Et voilà. Et puis il a, puis voilà, puis Thiago Silva aussi. C'est vrai qu'il a progressé.
Ce qui est un peu pathétique dans la fin d'Emery, c'est que, comme vous dites, une partie de ce qu'il dit, nous l'avons observé et que nous pouvons vérifier son impuissance à peu près totale. Il peut pas mettre Thiago Silva hors du coup, il peut pas imposer à Rabiot de jouer en sentinelle, il peut rien dire à Neymar par définition, il doit pas pouvoir dire grand chose à Mbappé non plus. Qu'est-ce qui reste à Emery?
Il dit rien du tout à Daniel Alves.
Voilà.
Daniel Alves qui a fêté ses 35 ans, et je vous conseille d'aller sur les réseaux sociaux pour voir la forme de son gâteau. Elle m'a fait peur.
Ah oui,
c'est un gâteau en forme de bouteille de vin.
Ah oui, mais plus il est magnifique, bien sûr.
C'est une déclaration d'amour au Barça qui est pénible pour les supporters parisiens.
Le supporter que vous êtes,
Ah oui, c'est insupportable.
Non, alors ça, moi, je l'ai compris. Je reste
bien sûr. On va écouter Grégory, et après... Ouais. Non, mais je veux bien l'échange entre vous deux.
J'ai pas beaucoup plus à dire. C'est désagréable. Alors, j'ai bien conscience que le monsieur a un palmarès extraordinaire. C'est un immense joueur. C'était un immense joueur. J'ai un peu plus de doutes aujourd'hui. Et l'entendre dire que le Barça est son club de cœur et qu'il y retournerait à tout moment...
Bah, Grégory, comme avec son premier amour.
Ouais, non, moi, qu'il retourne à ses premières amours. Moi, je finis par préférer Meunier, malgré ses problèmes avec les supporters.
Dieu sait que je raffole pas de Daniel Alves, hein. Je l'ai bien chargé tout au long de la saison parce que je pense qu'il a été peut-être, il devait être celui qui devait dynamiser le vestiaire. Je pense qu'il a dynamité le vestiaire. L'attitude qu'il a eue avec Cavani la fois où il vient lui prendre le ballon avant un coup franc ou un péno, j'ai trouvé ça intolérable de la part d'un professionnel tout court là, et entre deux coéquipiers. Mais je veux bien avoir compris ce qu'il a voulu dire. Il a passé des années merveilleuses à Barcelone.
J'entends bien.
Et évidemment, comme on dit, comme on entend aujourd'hui Carlos Moser dire que le club de sa vie c'est l'OM, que les supporters sont géniaux alors qu'il vit à 8000 bornes de là, je peux l'entendre. Alors certes, Daniel Alves n'a pas fini sa carrière,
voilà,
d'accord, mais je vois l'idée. Là, pour une fois, j'ai compris ce qu'il voulait dire. Il y a passé des années merveilleuses.
Oui, mais Stéphane, moi je suis plutôt de l'avis de Grégory, ça témoigne quand même d'un manque de respect relatif, hein. Je veux dire, il ne faut pas en faire une affaire d'État, c'est un petit manque de respect pour son employeur. Quand même.
Thiago Silva, quand il est arrivé à Paris en venant de Milan, disait que, Milan lui manquait.
Oui, mais c'était beaucoup mieux, et d'ailleurs, il mettait des protège-tibias avec le petit logo de
Voilà. Et c'était pas beaucoup mieux. Et Zlatan Ibrahimovic a dit qu'il venait d'un club génial et que ça lui manquait au tout début.
Oui, mais l'exemple que vous citez, c'est justement, il s'agissait à l'époque, en tout cas, de joueurs qui n'avaient pas un énorme respect pour le PSG. Zlatan et Thiago Silva, quand ils arrivent à Paris, c'est un peu entraîné dans les pieds.
Vous voulez dire que Daniel Alves n'a pas beaucoup de respect pour le PSG?
Mais je trouve, non, que ce genre de phrase, ça prête un peu à confusion. C'est perturbant.
En tous les cas, moi, je l'ai pas pris trop mal.
Guillaume nous dit sur Internet, Alves doit partir. Cyril, de son côté, Alves doit rester. Il y a toujours autant de débats. Et il y a Globule qui nous dit, Meunier est aussi mauvais que Alves en ce moment. Ceci dit, je vous rappelle que si vous partagez cette émission, et je vous invite à le faire, nous ferons un tirage au sort et on vous invite à la croisière Tribune PSG. C'est l'événement de la fin.
Il y en a qui vont finir à l'eau.
Tu sais qu'il va falloir qu'on teste quand même, qu'on regarde un peu comment on est pile, parce que c'est nous qui allons prendre les commandes.
Ah ouais?
Ah ouais, on va essayer.
Oh là là.
Et regarde, Captain Stubbing. Tonton Steph.
Oh, j'amène ma bouée, hein. J'ai un canard en forme de PSG, je l'amène, hein.
Ou la licorne aussi, c'est la grande mode. En tout cas, le hashtag croisière tribune PSG, vous n'hésitez pas. Et surtout, vous partagez cette émission et on va vous inviter à monter avec nous dans le petit bateau, les vedettes de Paris qui nous invitent, le Parisien. Et vous verrez, tous les gens, on a invité tous ceux qui sont venus dans cette émission. Donc, Grégory, le 28 mai. vous le sachez-le, vous êtes, et tu es invité aussi, pour être avec nous et pour aller voguer sur la scène.
Magnifique.
Voilà, et on se fera la saison. On parlera, voilà, foot féminin, foot masculin, Coupe du Monde, handball.
Et si
les handballeurs nous venaient avec une Coupe d'Europe sur le bateau, parce que je vous rappelle que la veille, eh bien, il y aura le Final Four. On ne sait jamais. On passe au débat suivant et nous allons parler de The Final. Les tranches finales, les Herbiers, Paris Saint-Germain, clac. Mm-hmm. Et ça, eh ben, ça vous donne un petit peu, c'est un petit peu Atlético Madrid-Marseille. Non, je rigole, Dauphard.
Dauphard
qui réalise l'émission, pardon.
Ça paraît très juste.
Vous savez que samedi, sur un plateau télé, je me suis permis, j'ai failli me faire découper en disant... Mais en fait, les Herbiers, ils ont la même chance au tirage sur leur parcours que l'OM en Europa League. Et alors là, j'ai failli prendre des boules de pétanque dans tous les sens. Et là, il y a Dauphard qui réalise l'émission qui va couper la tranche dans quelques instants. Ça te démange, hein, Dauphard. Hein. T'as envie de le faire, hein.
C'est toujours pareil.
Grégory.
L'OM, tout le monde l'aime. Il n'y a pas besoin d'aimer le foot pour aimer l'OM. C'est le grand avantage. Donc, en ce moment, tout va mieux. Il y a une espèce de courant national. On dirait que c'est la défaite de PSG, l'accession de Marseille à cette finale.
Moi, je trouve ça bien, finalement, que Marseille reviennent un peu en lumière, ça refait un peu d'animosité,
aussi,
ça remet un peu de sel.
Et puis ça donnera peut-être à Paris le sparring.
Moi, je suis resté sur le
bien besoin.
Je suis resté sur le Marseille qui est venu deux fois au Parc des Princes en trois jours.
Qu'on a pris
3-0, voilà. 3-0. Pour moi, ils n'existaient pas, ils n'existaient plus. Ils se réveillent en fin de saison, tant mieux. Ils ont un bon tirage, tant mieux. Ça changera pas la phase du monde. Et puis,
le plus dur reste à faire.
Évidemment. Évidemment. Mais alors, les Herbiers, moi, je l'ai pris comme une punition. Une petite punition pour Paris. C'est en gros, mais c'est les hasards, évidemment, du calendrier, des tirages. C'est, vous n'avez pas voulu vous élever à l'échelle européenne, et vous allez vous rabaisser à l'échelle nationale. On va vous trouver le plus petit participant pour une finale, le plus grand écart possible, et maintenant, débrouillez-vous. Mmh. Et je le sens un peu comme ça. Parce que être supporter du PSG aujourd'hui et se réveiller demain matin avec la boule au ventre en disant « Est-ce qu'on va battre les Herbiers ?» Je ne sais même pas s'il y en a un seul qui va penser ça demain matin.
Même avant la demi-finale contre Caen, peu de gens pensaient ça.
Allez, soyons fous, encore Caen, c'était la première division. Ouais, mais
une petite incertitude.
On rappelle les Herbiers, 11e de National, club semi-pro.
Qui se bat pour le maintien.
C'est fait, ils sont maintenus.
Oui, j'ai
depuis,
vu ça.
Voilà. C'est bien, t'as suivi.
J'ai suivi, bien sûr.
Quand. On aurait dû laisser gagner Caen, une finale Caen, les Herbiers,
c'était
il y avait un enjeu.
Ils sont coincés, Ronan, les Parisiens. Parce que si tu les bats pas 3-0 ou 4-0...
Ça veut dire qu'on est méprisant.
Voilà. Et si tu leur colles la ratatouille que tout le monde attend, c'est-à-dire 10-0 ou plus... ils vont dire, regardez le méchant parisien. En fait, t'es coincé avec cette finale. C'est que tu vas lever ton trophée, on va dire, regardez, c'était facile, de toute façon. C'était les Herbiers.
Le scénario.
Ouais, mais après, ça peut, non, mais évidemment, moi, l'incertitude, j'ai envie de dire que par définition, elle existe, mais même quand elle est réduite. Bon, là, c'est une idée qui est assez difficile à défendre, sur ce match-là en particulier. Mais c'est une formidable fête, une rencontre entre ce qui se fait de plus professionnel dans le football français et puis
le
foot amateur. Pour les Herbiers, pour la Vendée. Et même plus globalement pour cette France qui joue au foot parfois le vendredi soir ou le dimanche après-midi ou le dimanche matin, c'est aussi une manière
multiplex du samedi soir qui passe au dimanche après-midi bientôt.
Non, mais le foot amateur se projette sur les Herbiers et c'est aussi ça cette finale de la Coupe de France.
Mais c'est
pas un match entre deux équipes, c'est aussi la France du foot.
Oui, mais
les 2 millions licenciés, tout qui rien ça.
France Bleu Paris.
Oui,
et non,
oui.
France Bleu
oui,
Vendée.
Oui, mais si on veut bien élargir un tout petit peu le regard,
bien sûr,
mais c'est normal, c'est génial. Il y aura plus de gens pour les Herbiers que le nombre d'habitants.
Non mais c'est génial, 16 032 habitants, il y a 16 700 places vendues pour les Herbiers.
C'est la belle histoire de la Coupe de France. Après, on a du mal à imaginer qu'elle se finisse bien, l'histoire.
Là, moi, j'ai le plus de mal, c'est quand j'entends Stéphane Massala.
Elle se finira forcément bien, c'est magnifique, cette rencontre.
Non, mais quand t'entends l'entraîneur, de toute façon, on n'a aucune chance.
Oui, zéro chance. C'est ce qu'il dit ce matin dans le Parisien.
Ah oui, ce qu'il dit dans le Parisien.
Mais
Christophe Bérard, ça fait même bizarre, quoi.
Mais il y a une seconde qui dit on va gagner 2-1.
Bah oui, mais il faut essayer. Bah oui,
non, mais lui, son objectif, c'est de regarder Paris dans les yeux, pour reprendre ses mots. Bon, bah voilà, ils vont tenter de ne pas être ridicules. Après, on verra quelle tournure prend cette rencontre. C'est sûr que la raclée, mais la grosse raclée, ça serait presque un peu gênant pour tout le monde. Moi j'attends de voir. Je ne pense pas forcément qu'il y aura 5-0 à la mi-temps. Je m'attends peut-être à une fin de match très difficile pour les Herbiers, un dernier quart d'heure qui ressemblera à une longue punition. Ça c'est possible, ce genre de match.
Oui, parce que déjà les adversaires de Ligue 1 sont au supplice.
À partir de la 60e,
voilà. on peut attendre une résistance. C'est, le championnat national, c'est pas non plus, c'est non, pas c'est de la DH, quoi. Je veux dire, c'est la troisième division française. Bah, voilà. Oui. Donc c'est pas absolument, ce sont des joueurs quasi semi-pro.
Oui, mais là, ils sont partis dans une autre planète. Ils les ont mis à Clairefontaine. C'est pas, oui, enfin, ils les ont fait partir rêver à 15 000, quoi.
C'est pas une finale, Metz les Herbiers. On tape quand même sur le Paris Saint-Germain qui, regardez le classement. Je regardais le classement hier soir avec mes fils. C'est fou. Il y a 4 championnats dans ce championnat. Il y a un club qui est tout seul devant avec une vingtaine de points d'avance. Il y en a 3 qui se battent. Est-ce que vous avez vu qu'entre Marseille et le suivant, il y a quasiment 20 points encore?
Marseille-Rennes, vous voulez dire?
Oui, hein, c'est... Ouais. Ça va être ça. Oui, tout à fait.
Donc, non, mais effectivement.
Donc, il y a quelque chose. Donc là, les Herbiers, ils rencontrent juste celui qui est tout en haut, qui a laissé tout le monde à 40 points. Donc en plus, c'est pas un club de Ligue 1. C'est le Paris Saint-Germain taillé normalement pour aller loin en Ligue des Champions. Moi, ce que je pense, c'est que le scénario va être essentiel. Si les Herbiers encaissent un but dans les 10 premières minutes, c'est 8 ou 9. S'ils résistent, c'est la loi de la Coupe de France. Plus le temps passera et plus les Herbiers prendront confiance. Et moins Paris, enfin, ou plus Paris perdra confiance. Donc, la seule chose pour les Herbiers, c'est de tenir. Tenir le plus longtemps possible.
Non, mais voilà. Il a une belle image, l'entraîneur, encore une fois, dans l'interview qu'il a donnée ce matin à notre ami Christophe Bérard du Parisien.
Bérard Vignon,
l'on salue. Spécialiste du football vendéen. Eh bien, il a dit, voilà, ces joueurs, regardez, vous pouvez franchir une poutre comme ça. Il donnait l'exemple d'une poutre qui est au niveau du sol. Bah, tout le monde est capable de la franchir, cette poutre, et de traverser comme ça. Après, quand cette poutre est à 50 mètres d'altitude, 50 mètres de hauteur, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué. Bah, la finale de la Coupe de France, pour eux, ça va être ça. Ça va être une plongée dans le vide autour avec 80 000 personnes autour. Et il faudra continuer à pratiquer ce qu'ils ont l'habitude de faire un peu toute l'année, savoir jouer au football, enchaîner des passes et ne pas commettre des bourdes techniques horribles quoi, qui seraient liées à la pression, à la peur de mal faire, etc. C'est juste ça qu'ils doivent éviter. S'ils pratiquent leur jeu, bah après ils n'auront rien à se reprocher. Et puis après ils tiendront ce qu'ils tiendront. Si c'est 20 minutes, c'est bien. Si c'est une demi-heure, c'est super.
Grégory, pour terminer sur les Herbiers, puis après on va passer aux ultras qui se fâchent pour parler de l'institution.
Je pense qu'il y a un parallèle. Les supporters parisiens sont dans le même embarras que les joueurs parisiens au moment de faire ce match-là. Parce que c'est...
On a l'impression de...
Il y a très peu de passifs entre les supporters du PSG et ceux des Herbiers.
J'ai eu les copains de France Bleu, leur océan. Ils commençaient à me chambrer. J'ai dit arrêtez de me chambrer.
c'était
terrible. Et puis là, c'était au téléphone. Tiffaine, qui est une amie, j'ai dit non mais t'as raison, c'est vraiment... ça va être chaud quand même. J'ai fait oui, ça va être un petit peu difficile. Ouais. Voilà.
Bien sûr.
Et ça risque, si c'est un 2 ou 3-0, d'être un match très ennuyeux. Parce qu'une fois qu'ils auront mis les 2 ou 3 buts qui verrouillent, s'ils font ce qu'ils font en ce moment...
Mais ça ne peut être qu'un match ennuyeux. Ah
bah mais le sort du match, moi, je pense avoir un, pour
toi
le coup, un là,
une,
non,
France,
mais une rencontre, un regard un peu différent sur le match. À la limite, le déroulé du match, tout ça... Bon, oui, on le pressent, ça risque d'être un peu ennuyeux. Mais c'est le symbole qui est là, qui est formidable.
Moi, je te dis tout de suite, je vais mettre mon Scrabble, quand même.
Mais vous verrez, Stéphane, ça se passera pas forcément de manière aussi caricaturale que ça. Je pense qu'il y aura une résistance.
Allez, on passe à la suite dans cette émission, il est 18h18, vous êtes dans Tribune PSG, Tonton Steph est là, Ronan Folgoas et Grégory Proch, auteur du livre « Je suis né la même année que PSG » aux éditions JC Lattès. Les amis, les ultras voient rouge et bleu, bon, on l'a tenté, mais c'est un peu ça quand même. Ils essaient de faire respecter l'institution, et c'est en tout cas ce que vient de nous dire le collectif Ultra Paris. On a entendu Thomas Meunier qui veut bien justifier avec eux, mais qui veut pas justifier avec tous ceux qui...
Il a raison.
Qu'est-ce qui se passe?
Non, ça va pas, moi. Non, mais de toute façon, les ultras, c'est bien pour mettre de l'ambiance au truc, c'est même indispensable. Après, chacun dans son rôle. Et
mais là, ils sont dans leur rôle. Les joueurs,
Neymar
ne respecte pas le PSG, mais Alves non plus.
Je ne suis pas un ultra, je suis tout à fait d'accord avec eux.
Avec qui?
Avec le fait que Neymar ne respecte pas.
Mais
à titre individuel, on peut tous s'approprier le PSG et les bonnes manières. Mais après, on est des témoins et on constate. On peut faire remarquer. Exiger. Ce qui s'est passé sur Meunier, moi, je trouve ça absolument fou et totalement immérité.
Je pense que là, ils tapent à côté. Les ultras tapent à côté sur Meunier. Après, sur le fond, qui est de dire aussi, voilà, nous, en tant que force constituée en collectif, eh bien, on a aussi notre mot à dire. Mais après, On prend ce qu'on a envie de prendre aussi dans ce discours.
Mais ils ont quelque chose de très intéressant. Le club devrait prendre la parole sur ce dossier.
La nature a horreur du vide. Bah, et tant qu'il n'y a pas quelqu'un au club ou le club pour dire attendez, les garants du club, c'est nous.
Et ça fait combien de sujets sur lesquels on aurait
mis après, le collectif Ultra Paris a le droit et dans son rôle aussi, en se présentant quelque part comme un partenaire social. C'est un peu dans l'air du temps en ce moment. Mais ils ont le droit. Ils ont le droit. Et ils ont cette place-là. Et cette place-là n'est pas illégitime. C'est-à-dire qu'on ne peut pas considérer, Stéphane, enfin c'est mon avis, que les ultras sont juste bons à mettre l'ambiance, comme vous dites. Ce sont aussi des gens qui ont une vision du monde, c'est la leur, c'est pas forcément la nôtre.
Une vision individuelle. Chacun a la sienne comme nous.
Il faut croire aussi qu'ils constituent quand même un groupe de plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de personnes. Donc forcément, ils ont une force un peu différente. Ils ont le droit de développer un discours et un regard critique parfois sur le club.
Ce qu'on peut peut-être leur reprocher, c'est l'espèce d'aveu d'impuissance qui consiste à attaquer Meunier, qui est loin d'être le pire en termes d'engagement.
Et d'intelligence.
Et d'intelligence qui est plutôt.
Ils payent pour les autres un peu, quoi. Là,
et puis surtout, ils payent pour tous ceux qu'on n'osera pas remettre en question ou attaquer. C'est-à-dire que j'aurais bien aimé entendre les mêmes ultras sur Neymar. Mais,
dans leur communiqué, ils laissent entendre que cette blessure, il parle, soignée à l'étranger alors qu'en France, on aurait pu le faire à Paris.
C'est pire que ça. Moi, mon gamin a 15 ans. Pour lui, c'est un scandale depuis 2 mois que Neymar soit pas là. Il a vu le dernier match de la Juventus. Chiellini, sa saison est finie. Il fait partie du groupe et il est sur le banc. Alors qu'il est blessé et que sa saison est finie et qu'il n'imagine pas ne pas être là. Ah, en miroir, Neymar, c'est très très cruel pour nous. Et à cet instant-là, l'attaque des ultras contre Meunier devient dérisoire. Parce que pourquoi s'attaquer à Meunier alors qu'il y a 2-3 joueurs qui méritent un peu plus que lui d'être admonesté
Mais Neymar, vous parlez de Neymar, Grégory, il se trouve que Neymar est évoqué dans le communiqué. Oui, et puis aussi, Neymar, il a essuyé une bordée de sifflets il y a quelques temps, vous vous en rappelez, c'était au mois de janvier. C'était pas non plus, c'était pas forcément très juste, mais bon. Neymar lui-même a été visé par le public du parc.
Mais justement, j'aimerais bien savoir si vous allez au Parc des Princes, là sur Facebook Live, n'hésitez pas à me le dire. Si vous allez au Parc des Princes sur le match de samedi, qui sera le match de la fête, hein, bien sûr, du titre, moi je me demande ce qui va se passer pour Neymar. Qu'est-ce que vous allez faire quand il va.
Je me demande pas, moi.
Tu penses que ça va siffler?
Bah évidemment.
Ah bon?
Mais évidemment.
Je souhaite que Neymar s'entende dire un peu par les gens qu'il paye.
Mais évidemment.
Que c'est son attitude est scandaleuse, que nous n'avons pas apprécié qu'il essaye de prendre les pénalties à Cavani, qu'il aille se faire soigner ailleurs et qu'il parle
en
ligne.
Mais tous les. Mais il a raison. Tout au long de la semaine et partout dans mes rencontres. Je finis. Je croise des gens qui aiment. Qui sont supporters du PSG depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, mais ils tiennent tous le même discours. Neymar, c'est foutu de notre gueule.
C'est le problème. C'est pas le problème de Neymar. C'est le problème du PSG. Parce que l'employeur, s'il a du pouvoir, et s'il fait respecter ce pouvoir, il rapatrie peut-être un peu plus vite son joueur. Mais donc tout ça n'était possible que parce qu'il y a eu, à minima, l'accord du PSG. Donc après. Tomber sur Neymar pour ça, moi je suis un petit peu gêné avec cette idée-là. Parce que le PSG n'a pas été pris en otage totalement.
Je suis un peu gêné dans les semaines qui viennent parce que je pense que les gens n'auront pas d'état d'âme.
Oui, mais le PSG a une responsabilité énorme. C'est ça que je veux dire.
C'est quand Neymar touffe le ballon.
Mais c'est là qu'arrive le côté un peu facile de la chose.
C'est vrai.
Neymar, quelque part, il profite de l'environnement dans lequel il est. Et il en profite à fond. Complètement. Mais si il a face à lui club qui lui dit écoute, tu te soignes, tu vas te faire opérer éventuellement au Brésil parce que t'as peut-être plus confiance dans ce chirurgien. Très bien, tu prends le temps, tu prends 2-3 semaines. Et puis après, tu reviens chez nous. Peut-être que Neymar l'aurait fait parce qu'il aurait compris qu'il fallait le faire. Là, c'est vrai qu'on a un peu l'impression. Il revient pour la saison des trophées. Hein, il revient pour la fête du titre. Il revient peut-être pour les trophées UNIFP de dimanche. Voilà.
Peut-être aussi que cette colère ne fait qu'annoncer ce que nous redoutons tous, c'est-à-dire que ce soit la même chose l'année prochaine.
Oui.
Que Neymar soit l'espèce de patron informel, que l'entraîneur nouveau devra lui plaire pour pouvoir entraîner comme il faut. Nous le devinons, nous le pressentons, nous le redoutons.
Cela dit, le choix de l'entraîneur est déjà quand même une première réponse, parce que ça semble montrer que c'est pas tout à fait Neymar qui fait le recrutement de l'entraîneur. C'est presque Tourelle,
c'est le contre-pied parfait.
C'est presque une forme de contre-pouvoir par rapport à Neymar.
Donc ça n'annonce pas des lendemains chantants. Parce que si c'est un contre-pouvoir, on sait ce que le garçon fait avec le pouvoir. Donc avec le contre-pouvoir, eh ben ça va être la même saison ou pire. Donc
de toute façon,
je vois pas d'issue positive à l'histoire d'amour. Dieu sait que c'est une petite histoire d'amour entre le PSG et Neymar. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est parti sur des mauvaises bases, des très mauvaises bases. Alors pour plein de raisons, le club a pas occupé sa place. Neymar était sûrement plus grand que Paris quand il est arrivé, et le jour où il repartira, malheureusement, j'ai peur que Paris soit encore plus petit que lui, qui est un des deux, des trois meilleurs joueurs du monde. Et aujourd'hui, l'histoire d'amour, elle me paraît quasiment impossible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a trop de casseroles déjà. Il s'est passé trop de choses. En plus, pas de bol, il s'en est pris à un mec qui s'appelle Cavani, qui est le préféré de tous les supporters du PSG aujourd'hui. Ceux qui aiment le club. Parce que ce mec a montré depuis des années qu'il était capable de sacrifier face à Ibra, qu'il était capable d'être le seul à mouiller le maillot à Barcelone. Donc en plus, il s'en est pris au mauvais. Il y a des mecs avec qui on serait dit, bon... Mais là, Cavani, ça passe
non,
pas.
Mais il s'en est pris, ça c'est une erreur, c'est un problème de management derrière non. aussi.
Oui, bon, mais on peut toujours dire que...
Parce que là, on fait passer Neymar pour le grand méchant loup. Non, je suis désolé. Neymar, il est là. Il est le symptôme
qui a fait tout exploser.
Oui, c'est sûrement un garçon intelligent, c'est sûrement un garçon qui est un joueur merveilleux.
Neymar cadré, voire recadré de temps à autre, ça peut devenir... Mais c'est un joueur formidable, on va... Mais il faut à condition qu'il soit cadré, recadré.
Pourquoi on pose toujours ça?
Je peux juste me permettre de donner une petite anecdote. J'ai eu quelqu'un du Paris Saint-Germain. Germain, aujourd'hui, de l'entourage du PSG, nous avons discuté et je lui parlais de Tourelle et je lui disais, mais c'est incompatible avec Neymar. Parce que dans mon idée, c'était de me dire Tourelle préférera un Cavani, travailleur, bosseur.
Comme tous les entraîneurs.
Voilà, comme tous les entraîneurs. Eh bien, cette personne me dit, détrompe-toi, un entraîneur, si on lui propose le meilleur joueur du monde, il va se dire, je vais réussir à le dompter.
Mais...
Donc, il ira, entre guillemets, hein, jeter un Cavani en disant, Cavani, j'en retrouverai un autre.
Par contre,
à Neymar, j'en aurai jamais deux fois.
Cela dit, Neymar à Barcelone était beaucoup plus domestiqué qu'à Paris.
Parce que l'institution chapeautait tout et que toutes les bêtises du gamin étaient étouffées dans l'œuf.
Je voudrais juste finir parce que je voulais finir. Mais oui, juste dire qu'on a le droit de pas aimer l'attitude de Neymar et de lui reconnaître les plus grands talents de footballeur. Arrêtons de mettre en opposition. À chaque fois qu'un mec dit « j'ai pas aimé l'attitude de Neymar », on me répond « ah oui, mais c'est un super joueur ». Mais oui, c'est un super joueur. Mais oui, c'est un sale gosse aussi. Voilà, c'est tout. C'est un des meilleurs joueurs du monde. Il est hyper génial à regarder.
C'est un sale gosse quand il n'a pas son père autour de lui. Son père, je veux dire, son père,
oui,
de manière psychologique.
Comme disait le chanteur, on ne choisit pas sa famille, donc il est au PSG, père, il n'est pas actif.
J'ai crié Cavani au moment où Neymar s'apprêtait à tirer un pénalty, mais pour aller dans votre sens, je persiste à penser que Neymar est le futur meilleur joueur du monde à 2-3 ans de distance.
Bien sûr.
Il n'empêche que s'il avait eu intellectuellement et en termes de sensibilité les mêmes qualités, il n'aurait pas touché à Cavani.
Lui qui a touché. Non, mais là, c'est là que je
est allé tirer
non. Oui, mais non, mais il s'attaque pas à Cavani.
Il s'attaque pas
à Cavani. Pour lui, Cavani, c'est une nobody. Non, mais je veux dire, pour lui, il sait pas Cavani. Cavani, c'est le chouchou des supporters.
Il a 35 ans. Alors ça pose un problème de lucidité.
Non, mais lui, Neymar, c'est son espace naturel. Quand il arrive au PSG, c'est évidemment de tirer les pénalties. C'est même pas un sujet pour lui.
Il faut le savoir, les amis, c'est évident. Dans cette émission, nous pensons à Isabella Pagliari qui a débuté avec nous la saison et elle nous l'a annoncé avant qu'il y ait le penalty gate. Elle nous a dit « je vous avertis, s'il n'y a jamais Cavani tente de tirer les penalties à la place de Neymar, ça va fumer sévère et ils vont s'accrocher, ça risque de faire des problèmes.
» Oui, parce que c'est mal managé tout ça. Mais normalement, dans un club, où il y a une structure forte avec un dirigeant qui ose peut-être aller au devant des problèmes avant qu'ils ne se produisent, toute cette histoire n'aurait jamais eu lieu.
C'est l'heure du quick quiz pour terminer cette émission. Alors tu vas être tout seul contre deux, ça te va?
Il n'y a pas de problème.
Hop, alors là il y avait Neymar is back, mais bon on en a parlé, il se fait des parties de poker et il est en photo, il fait voir qu'il est très très fatigué, il y a une photo de Marco Verratti de Neymar allongé dans la pelouse, parce qu'effectivement, si pendant 8 semaines tu fais pas grand chose...
Mais il n'y a aucune haine je parle à Isabella en direct. Il n'y a aucune haine contre
Neymar. Ah mais je te rassure, je prends
Neymar.
Des casseroles là en ce moment.
Bah oui, pareil, bien sûr.
Parce que j'ai osé parler de Neymar et j'ai osé dire, bah, s'il veut partir, qu'il aille voir ailleurs, mais voilà, qu'il arrête de toucher l'institution et qu'il arrête de brasser.
Sûr.
Et alors là, qu'est-ce que j'ai pas dit? Là, c'est fini. Je suis devenu tonton. Je suis tonton. Voilà.
Le plus dur, c'est les 30 premières années. Après, on s'habitue.
C'est ça. Ça les amis, on se fait le quick quiz pour terminer. Un petit quiz historique, Grégory, pour t'expliquer un petit peu comment ça se passe. Alors, il y a la tribune Kids. Normalement, on a nos Kids qui sont à droite.
Faut que je retienne, donc, je dois dire Kids.
Voilà, Émilie, François et tonton Steph qui dira Kids pour annoncer la réponse. Et de l'autre côté, ce sera la tribune Auteuil. Ça vous va pour aujourd'hui, tribune Auteuil?
Très bien, très
donc,
bien.
Donc, si vous avez la réponse, tribune Auteuil et ensuite la réponse. Ça vous va? Tu vas être bien là quand même avec quelqu'un qui connaît bien l'histoire du Paris Saint-Germain. Et donc,
bien, toi.
Le quiz, je suis en train de m'étouffer, je vous lis comme ça. Je vous laisse.
La fin de saison est longue, hein.
Ah,
hein,
c'est
vrai. Bientôt, il faudra prévoir des bouteilles d'eau.
C'est ça. en tout cas, on va parler des finales de Coupe de France. Quel président fait ses adieux au PSG en compagnie de Rai lors de la finale de Coupe de France en 98 contre Lens?
Bah, Charles Biétry.
Non.
Non, il s'est bien. Bah, non.
Kids.
Oui.
Michel Denisot.
Très bien. Un point pour notre ami Stéphane. Je vous rappelle que le quiz est fait par les copains d'Histoire du PSG. Deuxième question. Combien de buts a marqué Zlatan Ibrahimovic lors de ses adieux en finale de Coupe de France contre Marseille? C'était en 2015-2016.
Kids.
Oui.
Deux.
Pas mal. C'est pas mal. Il est bien. Il est parti. Stéphane, il est lancé. 2-0. Ça va, les gars?
Ouais, bah, on est bien. Ouais.
Vous êtes bien chaud. Ouais. Qui marque le but égalisateur de la 120e contre la SSE lors de la finale 1980?
Kids.
Dominique Rocheteau.
Très bien, Dominique Rocheteau.
Sur une passe de Surzac.
Exactement, voilà. Qui s'arrache. Exact.
Ah, regardez, là, les deux kids ont les yeux qui brillent en reparlant de cette action. Ça nous fait 2-1. Quel joueur marque son unique but au PSG lors de la finale de Coupe de France contre Marseille en 2005?
Oui. Dorasso.
Oui, très bien. 2-2, oh là là. Ça revient bien.
2006, hein. 2006.
Oui, 2005-2006.
À saison 2005-2006, ouais.
Saison 2005, tout à fait. Et oui, puisque le supporter marseillais et Dauphard qui est en train de réaliser cette émission se rappelle très bien de ce match, cette reprise de Vicage Dorasso. Allez, la dernière. Combien de Coupes de France le PSG a-t-il remporté?
Kids. 11.
Très bien joué. 11, 82, 83, 93, 95, 98, 2004, 2006, 2010, 2015, 2016, 2017.
En record. Record national.
Et Dominique Battenay est toujours co-recordman.
Avec Alain Roche et Marceau Sommerlin.
Ah, c'est Sommerlin. C'est pas Smereki, c'est Sommerlin.
Ah là, quand on laissait les anciens partir là-dessus.
C'est ça.
Voilà, tribune PSG.
3-2, pas mal sans les.
Pas mal, tu t'es bien.
Bah, bien sûr.
Finalement, quand t'as pas les petits avec toi, t'es mieux.
On a la finale de la Coupe 83.
Exactement. Ah, magnifique.
Quand t'as pas les kids à côté de toi. Grégory Poch, merci beaucoup d'être venu passer ce moment avec nous. Je rappelle le titre du livre qui va sortir, Je suis né la même année que PSG, aux éditions J.C. Lattès. Le livre n'est pas encore sorti, mais commencez à faire les réservations le 30 mai prochain. Et on retrouvera avec nous. Vous venez avec un bouquin sous le...
Absolument.
Pour notre croisière, la croisière Tribune PSG. On fera le tirage au sort pour les premières places à remporter. Merci, tonton Steph.
Mais c'était un plaisir.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
On prend le pari. On va le réussir. Le joueur dans le studio.
Allez, on va le réussir.
On
en fait un par an.
On va aller, on l'espère. En tout cas, tonton Stéphane, on fait la bise à Émilie Ross. On fait la bise à François Denain. Et on fait la bise aussi à Ronan Folgoas.
Oh, c'est mignon.
Merci, Ronan.
À toi aussi.
Très vite, peut-être la semaine prochaine pour le joueur, ou sinon pour la croisière Tribune PSG.
Oui, bah l'un des deux.
Des deux.
Au moins l'un des deux.
L'un des deux, et bah c'est parfait. 18h34, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci à Dauphard qui a réalisé cette émission. Imaginez, pour un supporter de Marseille, écouter une émission pendant une heure sur le Paris Saint-Germain. Mais au moins, on lui a fait voir ce que c'était le très haut niveau. Allez, bisous, ciao.